Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence Albioma sur les résultats du premier semestre 2015. Pour votre information, la conférence d'aujourd'hui est enregistrée. À présent, je voudrais donner la parole à Jacques Pétry, président directeur général. C'est à vous.
Merci beaucoup, bonsoir à tous. Ici Jacques Pétry, président de Albioma. Je suis accompagné de Julien Gauthier, directeur administratif et financier, et de plusieurs de mes collègues de la direction de Albioma. Merci de vous être libéré pour cette réunion tardive et pour une fin juillet, mais comme c'est le cas chaque année, nous présentons donc à cette occasion nos résultats du premier semestre. Vous avez des slides qui vont défiler devant vous pour ceux qui regardent leur ordinateur et nous indiquerons éventuellement les numéros de page. Ce livre de slides est très complet et donc certains des slides ne seront pas commentés oralement et nous serons à votre disposition en fin de présentation pour répondre à vos questions. Donc je suis page 3 et je vais commencer par un rappel des éléments importants du premier semestre 2015 et bien sûr je vais commenter chacun de ces éléments. D'abord, comme vous le savez, l'évolution très significative de la structure de l'actionnariat de Albioma avec la sortie d'Apax Francis. Deuxièmement, et tout ceci est conforme aux annonces du 27 mai, un semestre difficile pour les exploitations thermiques, en particulier en Guadeloupe, avec la grève du début d'année en Guadeloupe et l'incident technique à Albioma Le Moule, qui a entraîné un plan d'action spécifique sur lequel nous reviendrons. Ensuite, au Brésil, eh bien, la croissance de la production d'électricité à Rio Pardo et la sécurisation des ventes à 20 ans pour deux contrats, Rio Pardo et la future usine de Codora que nous allons reprendre dans quelques temps, à des niveaux de prix historiquement élevés. Enfin, la mise en route du programme d'investissement 2013-2023 avec des éléments concrets, le lancement de la construction de l'usine de Galion 2, la signature du contrat d'acquisition de Codora Energia au Brésil et enfin la signature de la première tranche des travaux des chantiers IED pour 26 millions d'euros dans le programme de 200 millions consacré à cette mise à niveau des traitements des fumées de l'ensemble de nos usines dans les départements d'outre-mer. Je passe rapidement et donc je ne commente pas sur le positionnement stratégique que vous connaissez tous et je vais directement à la page 12 et 13 concernant l'évolution de notre structure actionnariale. Donc, je suis page 13. Vous vous souvenez que Apax Francis et Altamir avaient fait l'acquisition en 2005 d'environ 42,5% du capital d'Albioma. Le 5 juin 2015, Apax Partners a annoncé son intention de distribuer environ 30% du capital d'Albioma détenu directement et indirectement par le fonds Apax France 6, avec l'idée de fermer ce fonds, Albioma étant le dernier actif porté par ce fonds. Les porteurs de parts du fonds Apax Francis ont reçu depuis lors les actions d'Albioma et la participation d'Altamir est demeurée inchangée aux environs de 12%. Si vous regardez la page 14, vous constatez d'abord au niveau des cours de bourse que nous nous sommes stabilisés aux environs de 15 € par action depuis quelques jours. Vous constatez sur la partie droite de ce slide que, alors que dans les 12 mois qui avaient précédé l'annonce par Apax, il y avait un volume moyen quotidien d'à peu près 40 000 titres échangés, depuis le 5 juin, nous sommes sur un rythme d'à peu près 120 000 titres, ce qui d'une part nous fait constater l'amélioration de la liquidité du titre, et d'autre part, simplement, nous fait penser qu'il y a eu un volume très important d'actions échangées. Si on était resté au même rythme qu'auparavant, au lieu d'avoir 14,6% du capital échangé depuis le 5 juin, nous aurions à peu près 4 ou 5%. Donc il y a à peu près 10% supplémentaire de capital qui a été échangé depuis l'annonce par Apax. Cette opération donc est conforme à ce que nous avions annoncé et aujourd'hui est en train de se stabiliser après les effets d'annonce importants du mois de juin. Regardons maintenant les éléments concernant la France avec d'abord les éléments significatifs en page 16 liés à un semestre difficile en Guadeloupe. Nous avions indiqué qu'il y avait eu un conflit social en Guadeloupe au premier trimestre qui s'est traduit par environ 3,1% de perte de disponibilité. D'autre part, nous vous avions indiqué qu'il y avait eu un incident technique sérieux sur la centrale du Moule en Guadeloupe et ceci s'est traduit donc par un arrêt de l'usine. Des travaux de remplacement et de réparation des éléments du groupe turbo-alternateur qui sont en cours encore aujourd'hui. La remise en service est programmée au début du mois d'août 2015. Depuis le 5 juin, l'ensemble des impacts négatifs au plan économique sont portés par nos assurances. Et donc, aujourd'hui, je dirais que la date de remise en service est sans impact sur Albioma, mais évidemment au titre de la permanence du service public, nos équipes sont mobilisées pour remettre en service le plus tôt possible. Par ailleurs, nous vous avions indiqué qu'il y avait eu un incident sur la chaudière du Gol. Cet incident a eu un impact sur notre disponibilité de moins 1,9% et l'usine a été remise en service le 1er juin. La réhabilitation définitive de l'équipement lié à cet incident sera réalisée à l'occasion de l'arrêt technique programmé du mois d'août, c'est-à-dire dans quelques jours. À noter enfin la bonne performance des autres installations et en particulier un fort taux d'appel de la centrale de pointe du Galion et vous le verrez tout à l'heure dans les bridges que Julien Gauthier vous présentera. Si je continue page 17, vous constaterez que donc à la suite du dysfonctionnement d'un organe de sécurité sur l'usine d'Albioma Le Moule, donc nous avons constaté qu'il y avait lieu de prendre des actions de type préventive, d'autre part des actions de réduction des conséquences de la survenance d'un tel dysfonctionnement, et enfin des actions de pérennisation de notre patrimoine industriel. Pour ce qui est de la prévention, nous avons lancé un audit de l'ensemble des systèmes de sécurité de nos machines et nous l'avons confié, cet audit, à un expert extérieur qui se met au travail pour des préconisations et un rapport au mois de novembre. Nous avons lancé des inspections de l'ensemble des équipements et des points faibles et nous avons identifié certains points faibles à améliorer et nous avons amélioré aussi notre plan de maintenance afin que les nouvelles mesures soient appliquées dès que nous aurons eu l'occasion de faire nos modifications lors des arrêts programmés de nos usines. Pour ce qui concerne la réduction des conséquences dans le cas où des incidents interviennent, nous avons entrepris un travail lourd de révision du parc de pièces de rechange pour limiter la durée des indisponibilités. Nous avons amélioré, modifié certaines consignes d'exploitation et nous avons mis en place des alarmes complémentaires d'aide à la conduite et à la prise de décision pour le fonctionnement de nos installations. Et enfin, nous sommes en train, au titre de la pérennisation de notre actif industriel, de remplacer progressivement et à l'occasion de nos arrêts d'usine, certains de nos équipements. Donc, nous sommes au travail pour que cet incident de Albioma Le Moule soit mis à profit pour apprendre, tirer les leçons de cet incident et améliorer notre fonctionnement pour atteindre de façon stable et pérenne cet objectif que nous vous avons commenté depuis plusieurs années, de 90 à 92% de notre disponibilité. Toujours sur la biomasse thermique, Nous poursuivons une politique qui est engagée maintenant depuis 2013 de gestion active de nos contrats, avec en permanence des discussions avec EDF sur des sujets pour lesquels nous pensons avoir droit à compensation tarifaire. La bonne nouvelle du premier semestre, c'est que nous avons signé notre premier avenant dans le cadre du vaste programme de mise à niveau des traitements des fumées dans le cadre de la nouvelle directive environnementale européenne IED. Vous rappelez que nous avons 200 millions d'euros à investir et donc nous avons signé la première tranche à Albioma Le Gol Gold B. Cette tranche sera réalisée pour être mise en service au second semestre 2016. Et maintenant que la première tranche a été signée, bien il nous faut reproduire cette discussion avec EDF sur nos 8 autres tranches, et ceci est engagé et se passe dans de bonnes conditions. D'autre part, nous vous avions parlé en 2013 de l'impact économique lié à de nouvelles normes concernant les sous-produits de combustion. Ces nouvelles normes ont un impact économique négatif de l'ordre de 4 à 5 millions par an, et nous avons engagé auprès d'EDF la demande de compensation. EDF a reçu notre demande, l'a analysée, l'a traitée, et maintenant il reste à la faire valider par la Commission de régulation de l'énergie, et nous espérons, après l'été, avoir de bonnes nouvelles dans ce domaine. Si je passe à la page 19, il s'agit de rappeler que, au-delà des aspects contractuels, au-delà des aspects d'exploitation, dans le cadre de la biomasse thermique, nous avons une avancée significative de nos projets de construction et de développement de nouvelles installations. Les travaux de Galion 2 sont maintenant démarrés. Après avoir mis en place un financement très favorable de 120 millions d'euros sur 20 ans dans des conditions historiquement basses, d'intérêt bas, nous avons commandé les principaux équipements et les travaux de terrassement, d'aménagement hydraulique, de renforcement des berges sont en cours, avec toujours l'objectif de mise en service au premier semestre 2017. Pour ce qui concerne la turbine à combustion de Saint-Pierre, qui, je vous le rappelle, est une turbine à combustion qui, pour la première fois dans l'ensemble des DOM, fonctionnera au bioéthanol, donc toujours notre volonté de poursuivre notre développement dans le monde de la biomasse. Cet investissement de 50 millions d'euros fait l'objet aujourd'hui d'une demande de permis de construire et de permis CPE, avec l'objectif d'obtenir ces permis avant la fin 2015. Et ensuite, il nous faut 12 mois de réalisation des travaux pour permettre une mise en service. Voilà pour le thermique France. Le solaire, je passe très vite, page 20, il n'y a rien à dire, très bonne performance du solaire. Page 21, la méthanisation. La bonne nouvelle que vous voyez sur les graphes, c'est que, et on a pris l'exemple de Tipper, la disponibilité de Tipper progresse de façon très importante, et de semestre en semestre, on peut dire que l'on a réussi la maîtrise industrielle de l'outil. Et ça se traduit aussi sur la partie droite du graphe par la montée en puissance des ventes électriques. En revanche, et c'est conforme à ce que nous vous avons dit en fin d'année dernière, il reste nécessaire une augmentation significative des tarifs de rachat d'électricité pour assurer la viabilité économique de la filière. Des annonces qui mériteront d'être précisées ont été faites par la ministre de l'Environnement vendredi, qui vont dans le bon sens, mais attendons de voir précisément le détail d'application de ces mesures annoncées par Madame Royal, mais comme je le disais à l'instant, elles vont plutôt dans le bon sens. Voilà pour ce qui concerne la France. Pour ce qui concerne Maurice, je dirais bonne performance, rien à dire, donc je suis page 23 et on peut passer très vite. Et je vous propose de regarder maintenant les éléments sur le Brésil. Nous sommes page 25, avec pour Rio Pardo, donc la deuxième année d'exploitation. Sur le graphe, vous voyez pour mémoire les ventes de 2013 quand c'était le sucrier qui était le propriétaire. Cette année 2015, vous voyez, nous sommes à 36 gigawattheures. Alors en fait, il faut se méfier des comparaisons d'un semestre à l'autre et il faut regarder ça sur la durée de l'année et de la campagne sucrière, mais nous sommes en croissance significative. Dans le même temps, il faut noter que la campagne de cette année a démarré plus tôt que l'année dernière et aussi, comme elle a démarré plus tôt, la teneur en fibres de la canne à sucre est plus faible. Donc je dirais qu'aujourd'hui, tout va bien sur ce premier semestre de Rio Pardo et c'est sur l'ensemble de l'année que l'on pourra faire le bilan total de cette installation qui fonctionne bien. Lors de l'arrêt d'usine du premier trimestre, nous avons fait des travaux importants sur la chaudière dont la performance s'est améliorée de façon très significative. Et vous vous rappelez que nous avons au spot, nous avions prévendu sur le marché spot 2015, nous avions prévendu à des clients industriels au titre de 2015 et le contexte tarifaire global, et nous le reverrons dans un instant, nous est favorable. Pour ce qui concerne Codora Energia, c'est la page 26, nous avions annoncé la signature le 15 avril 2015 de la documentation définitive pour l'acquisition de 65% du capital de Conora Energia, 48 MW, plus un projet d'extension de 20 MW pour une mise en service en 2017. La dette d'acquisition est maintenant sécurisée. Nous avons notre directeur central qui supervise l'exploitation par Albioma depuis le début de la campagne sucrière. Et la bonne nouvelle, c'est que les conditions suspensives sont en train d'être levées une par une et nous attendons un closing prochainement et donc assez rapidement et plus que ce que nous avions pu préciser lors de nos présentations précédentes. Pour ce qui concerne la page 27, nous avons signé deux contrats donc de vente d'électricité à long terme, c'est ce qui est dans le cartouche à droite de votre écran, avec un contrat de 20 ans pour Rio Pardo pour 82 gigawattheures par an à compter de 2016 à un prix élevé de 212 réals par mégawattheure, donc plus élevé que nos hypothèses au moment de l'acquisition du projet. Et deuxièmement, pour Codora, un contrat de 20 ans qui lui est à des tarifs encore bien supérieurs, 278 réals par mégawattheure. Vous pourriez me dire, mais c'est beaucoup plus que pour le premier. En fait, ce sont des tarifs pour de nouvelles installations et c'est lié à la nouvelle turbine que nous allons devoir construire et installer. Et donc, de façon assez normale, les tarifs de rachat sont prévus comme étant plus élevés pour les installations Greenfield que Brownfield. Globalement, si l'on fait la moyenne sur la durée des 20 années 2015-2035, vous voyez qu'on a à peu près 52% de la production qui est sécurisée. Vous vous rappelez aussi que nous avions dit que nous visions à peu près 60%. Donc progressivement, nous mettons en place notre ambition qui est cohérente avec notre modèle de vente contractée long terme. Et je vous rappelle dans le même temps que nous avons fait le choix de ne pas nous contracter à 100% dans la mesure où nous ne voulons pas être obligés de vendre sur des contrats long terme compte tenu des aléas éventuels sur la production. Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits de voir que par ces contrats long terme, bien nous, d'abord, nous avons la validation des hypothèses que nous avions prises, même au-delà en termes de tarifs, et nous pouvons sécuriser une part importante de nos ventes pour dérisquer une partie de celle-là. Voilà pour ce qui concerne les différents pays où nous intervenons. Je vais passer la parole maintenant à Julien Gauthier qui va vous commenter les résultats financiers.
Bonjour à tous. Donc je suis page 29 sur le slide chiffre d'affaires. Donc sur le semestre, on a un chiffre d'affaires stable hors effet prix matières premières à 164 millions à comparer à l'année précédente à 165,5. Il est intéressant de noter sur l'effet prix matières premières que il est légèrement négatif à moins 1,2 sur le semestre, mais c'est un mix d'une variation négative sur le fuel, alors que le charbon, et c'est la première fois depuis 3 ans, a été en légère progression sur le semestre. Il y a eu une stabilisation des cours du charbon, voire une légère remontée au cours du premier semestre. si je commente les grandes variations entre le 2014 et 2015, on a évidemment été impacté sur les bonus-malus, puisqu'on a, eu des malus à cause de la disponibilité de nos installations qui ont été perturbées par les grèves et les incidents techniques. Donc c'est la brique orange moins 6,5. C'est une variation par rapport à l'année précédente. On a, c'est également une conséquence, moins produit sur nos centrales de base qu'en 2014. Donc c'est un impact négatif au niveau du chiffre d'affaires de moins 5,1 millions d'euros. Ces deux effets négatifs sur nos centrales de base sont en partie compensés par l'excellente performance de la centrale de pointe du Galion, avec un taux d'appel de 31,8% sur le semestre. Elle a été appelée en semi-base, hein. On est bien au-delà de son régime de fonctionnement normal, qui est plutôt aux alentours de 15-20%. Là, sur le semestre, on fait une très bonne performance. Enfin, sur le Brésil, un chiffre d'affaires en retrait de 1,4 million d'euros par rapport à l'année dernière. Alors ça traduit un mixte entre une augmentation de la production de plus 1,3 millions d'euros, dont Jacques a évoqué, hein, on a vendu plus de gigawattheures que l'année précédente. Par contre, il y a un effet prix négatif de moins 2,4 millions et un effet change de moins 300 000 euros, qui fait qu'au final, par rapport à l'année dernière, on perd moins 1,4 de chiffre d'affaires. C'était tout à fait mécanique et prévu, hein, puisqu'on s'était engagé sur des contrats avec des clients industriels et on n'a pas bénéficié de l'exceptionnel prix spot de 2014 au cours de l'année 2015. Le plafond du prix spot en 2015 était à 388 euros du mégawattheure. On a été pas loin du cap au cours du premier semestre. Enfin, la dernière brique sur le chiffre d'affaires autre inclut la performance de la méthanisation, un peu plus de 1 million de chiffre d'affaires, et du solaire. Si je passe à l'EBITDA, l'EBITDA sur le semestre est en baisse par rapport à 2014 de 16%. On finit le semestre à 50,2 millions d'euros à comparer à 64,1. Et je rappelle que dans le 64,1 de 2014, il y avait 4 millions d'exceptionnels liés au règlement d'un litige dans l'activité solaire. On retrouve les effets que j'ai commentés sur le chiffre d'affaires, moins 6,5 de bonus-malus, la marge résiduelle, ce qu'on fait sur la centrale de point de 1,8. Autre effet qui n'impactait pas le chiffre d'affaires sur les charges et sous-produits de combustion, moins 0,9. Donc, on a dit que depuis maintenant 2013, que tous les ans, on supportait entre 4 et 5 millions de charges liées aux sous-produits de combustion. C'est l'objet d'une négociation avec EDF. On s'est mis d'accord avec EDF et le dossier est en cours de validation et d'analyse par la Commission de régulation de l'énergie. Et on espère des nouvelles au deuxième semestre sur ce sujet. Je commente maintenant la brique thermique. Sur l'EBITDA, on a un impact négatif de moins 3,2 millions sur chiffre d'affaires. On retrouve les éléments que j'ai indiqués sur le chiffre d'affaires. En plus de cela, il faut bien avoir en tête qu'on a supporté les charges de l'intercampagne, les trois premiers mois de charges cette année, alors que l'année dernière, comme on a fait l'acquisition en avril 2014, il n'y avait pas de charges. Et donc, il y a une différence, évidemment, par rapport à 2014.
Le 3,2 concerne le Brésil.
Oui, pardon, le 3,2 concerne bien évidemment le Brésil. Ma langue a fourché. Un mot sur le RNPG. On finit le semestre à 9,5 millions de RNPG, à comparer à 20,7 l'année dernière, et sur une base complètement comparable, hors exceptionnel, on était à 17,7 l'année précédente. Deux effets, deux paramètres qui doivent être expliqués par rapport à l'EBITDA. Sur le Brésil, en plus des charges d'exploitation qu'on a portées sur le premier trimestre, qu'on n'avait pas l'année précédente, il y avait également, sur ce semestre 2015, les charges financières liées à la dette d'acquisition de Rio Pardo, qu'on a mis en place en mai 2014, et donc qui n'avait pas impacté le premier semestre 2014, et qui, évidemment, aujourd'hui, impacte tout le semestre. Et deuxième effet, toujours sur le résultat financier, on a une variation négative de moins 600 000 euros sur le résultat financier de la holding qui est liée à la mise en place en juin 2014 d'une émission obligataire de type EuroPP qu'on a en année pleine en 2015. Voilà pour ce qui concerne les principales variations de notre compte d'exploitation. Vous avez la page suivante, page 32, la synthèse par activité de notre compte de résultat, et avec les chiffres non plus en variation, mais en valeur absolue. Donc, si je reprends les grandes données de l'EBITDA, je ne vais pas commenter le chiffre d'affaires, hein, la France Biomasse Thermique finit à 35,5 à comparer aux 42 millions de l'année précédente. L'eau solaire est à 16 comparé à 17,3 l'année précédente, mais dans les 17,3, il y avait une partie d'exceptionnel liée au litige solaire. Maurice est en croissance par rapport à l'année dernière. Le Brésil termine l'année à moins 0,2, mais il est important de noter que notre centrale de Rio Pardo, donc qui est la partie, la ligne exploitation, a un EBITDA positif de 1,9 million d'euros, et la structure qui porte tous les coûts de structure et de développement a un résultat négatif de 2,1 millions d'euros. On est dans une période extrêmement active en termes de développement, avec plusieurs projets et discussions en cours, et analyses et due diligence en cours. C'est pour ça que vous avez dans holding et développement une charge de 2,1 millions d'euros en hausse par rapport à 2014 où on était à moins 1,4. Voilà pour ce qui concerne le compte des résultats par activité. Quelques éléments sur la trésorerie, page 33. Sur le semestre, nous avons généré 45 millions de flux de trésorerie opérationnelle et levé 5 millions de nouvelles dettes dans le cadre de l'acquisition du projet Bourbon. Ce sont les 14 centrales photovoltaïques à La Réunion que nous avons acquis en avril 2015. En termes d'emploi, le service de la dette a été de 31, dont 18 millions de remboursements d'emprunt et 13 de charges d'intérêt. Et les investissements sont élevés à 40 millions, dont 30 millions d'investissements développement, essentiellement, le projet Galion 2, ainsi que l'acquisition des centrales photovoltaïques à La Réunion. Donc on a un niveau d'investissement qui est élevé et ça va continuer au cours du deuxième semestre, tout à fait en ligne avec le plan et l'ensemble des projets dont on parle depuis un certain temps. En synthèse, la trésorerie du groupe est passée de 103 au 31 décembre 2014 à 82 millions d'euros au 30 juin 2015. On a encore un niveau de trésorerie assez confortable. Pour finir sur la partie financière, un mot sur notre bilan et l'état de notre endettement. La dette projet est en légère baisse à 451 millions, à comparer à 459 millions d'euros au 31 décembre 2014. C'est l'amortissement naturel de la dette projet sur nos centrales existantes. La seule nouvelle dette projet sur ce semestre est liée à la petite acquisition dans le solaire, sont les 5 millions dont j'ai parlé. La dette corporate est stable. La trésorerie, on en a parlé, est passée de 103 à 82, ce qui fait que notre dette nette est en légère augmentation de 3% à 445 millions d'euros à comparer à 430 au 31 décembre 2014. Si on regarde quelques ratios, le ratio dette nette sur EBITDA est passé de 3,3 à 3,9, on est encore dans des niveaux bas historiquement et compte tenu de la phase de développement dans laquelle on est engagé, nous allons probablement évoluer vers un ratio de 5 en 2016 qui va très vite baisser significativement dès la mise en service du projet Galion à la Martinique et de la turbine à combustion à La Réunion. La durée de vie résiduelle moyenne de notre dette est très longue. Il n'y a pas de mur de la dette chez Albioma. Elle est de 9 ans. Le taux moyen d'intérêt du groupe est de 4-8%. Après, il est très important de distinguer la France où on a 4,5 et le Brésil où le coût moyen de nos dettes est à 13,4%. L'inflation au Brésil pour cette année est de 8%. 87% de nos dettes est couverte ou à taux fixe, donc on est peu sensible aux variations des taux. Et enfin, un point très important, on présente là des chiffres agrégés et consolidés de la dette, mais une très grande partie de nos dettes est sans recours, à l'exception de la dette du Brésil, qui est à recours limité pour ses premières acquisitions. À terme, on vise un modèle comme dans les départements outre-mer, avec une dette projet sans recours sur l'actionnaire et la maison mère Albioma. Voilà pour les chiffres du bilan, et je vais redonner la parole à Jacques.
Merci beaucoup. Donc nous regardons maintenant les perspectives et les objectifs 2023. En page 36, en dépit des difficultés réelles du premier semestre, On peut constater qu'il y a eu un certain nombre d'avancées importantes au Brésil avec ce projet de Codora, un projet tous les 12 à 18 mois et on est au rendez-vous qui était annoncé. Sécurisation des ventes à des prix historiquement élevés, là aussi, contractualisation comme on le souhaitait. Lancement de Galion 2, premier avenant d'une tranche IED pour le GOL. Donc, des avancées tout à fait significatives. Pour ce qui concerne le second semestre, eh bien, on doit mettre en œuvre le plan d'action dont on vous a parlé, qui est un plan ambitieux et vaste. On doit obtenir la compensation économique des charges liées aux sous-produits de combustion. Et, comme je vous le disais au début de mon intervention, rapidement signer la documentation définitive pour l'acquisition de Conora Energia. Et nous confirmons les objectifs que nous avons révisés le 27 mai 2015 en termes d'EBITDA et de RNPG. Si l'on regarde la page 37, l'on a à nouveau ce graphe qui présente notre projet de 1 milliard d'euros d'investissement sur la période 2013-2023, avec dans la partie haute du graphe les projets identifiés et que vous connaissez, et dans la partie basse les projets qui restent à être identifiés et signés. Mais nous confirmons notre capacité à livrer ce milliard d'euros d'investissement et de croissance sur la période. Et nous confirmons que, au-delà du Brésil, nous travaillons à la préparation d'une entrée à moyen terme dans un ou plusieurs nouveaux pays de canne à sucre et de bagasse, car nous voulons pousser notre avantage concurrentiel comme étant le seul opérateur spécialisé dans la valorisation de la bagasse dans le monde. Et pour terminer, eh bien, nous confirmons donc cette ambition de doubler le patrimoine industriel à l'horizon de 2023, avec une croissance soutenue donc des capitaux investis, l'ambition de doubler dans le même temps le résultat net par du groupe, et ce doublement qui en moyenne correspond à peu près à 7,5% par an de croissance se fera par marche d'escalier et non pas de façon linéaire et régulière sur les 10 ans. Et la grande marche d'escalier à venir, c'est 2017 avec la mise en service de plusieurs de nos grandes installations, donc marge d'escalier très significative avec un effet année pleine en 2018 et donc une croissance correspondante au format de la croissance historique de l'entreprise avec son escalier vert tel qu'on vous l'a souvent présenté. Et dans le même temps, avec notre politique de distribution du dividende de 50% du résultat net par du groupe, la volonté de faire croître le dividende en parallèle de la croissance du résultat net par du groupe. Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous voulions vous présenter à l'occasion des résultats de cette fin du premier semestre. Donc, des résultats contrastés avec des difficultés d'exploitation que nous assumons et que nous traitons en les prenant à bras-le-corps et en les traitant, et dans le même temps, des perspectives de croissance tout à fait favorables dans les années prochaines. Avec mes collègues maintenant, nous allons répondre à vos questions et je repasse donc la parole à l'opérateur.
Merci. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question au téléphone, veuillez appuyer sur la touche étoile suivie du chiffre 1. Si vous utilisez un téléphone équipé d'une touche mise en silence, veuillez vous assurer que cette fonction n'est pas activée afin que votre signal soit perçu par notre équipement. Si votre question a déjà été posée et vous souhaitez vous retirer de la liste d'attente, appuyez sur la touche étoile suivie du chiffre 2. Une nouvelle fois, mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur la touche étoile suivie du chiffre 1. Nous allons prendre la première question de Audrey Nutt. Amandy, c'est à vous.
Oui, allô.
Votre ligne. Allô, vous m'entendez?
Tout à fait, madame.
Ah, bonjour. Merci pour la présentation. J'avais deux questions. Notamment sur les capex de développement que vous mentionnez pour le premier semestre 2015, j'aurais voulu savoir si c'était la norme qui allait être développée tout au long de votre programme de développement. Et ensuite, aussi, si vous pouviez nous dire dans quel pays vous vous développez au-delà du Brésil.
Je passe la parole à Julien Gauthier sur les capex d'exploitation.
Alors, sur les capex d'exploitation, on a annoncé un programme d'investissement de 1 milliard entre 2013 et 2023, ce qui fait une... Vous parlez des capex de développement.
Capex d'exploitation.
De développement.
Développement, oui, donc c'est bien ce que je disais.
Oui.
Les capex développement de 1 milliard entre 2013 et 2023, qui fait une moyenne annuelle de 100 millions d'euros par an. Sur les deux prochaines années, y compris 2015-2016, on sera au-delà parce que on construit actuellement de très grosses centrales, Galion 2, la turbine à combustion, donc on sera bien au-delà des 100 millions d'euros par an. L'investissement du Galion représente 170 millions d'euros, il est construit entre maintenant, l'année prochaine et un tout petit peu début 2017. La turbine à combustion représente 50 millions. On a une partie des investissements qui vont être commencés sur le programme de modernisation de nos centrales, qui représente 200 millions à horizon 2019. Donc, les prochaines années, 2015-2016, on sera au-dessus de ces 100 millions, et après, on aura ce rythme de croisière de 100 sur la fin de la période.
Avec un effet rattrapage par rapport aux années dernières qui étaient en sous-investissement par rapport aux 100 millions, puisque nous avions eu un creux dans notre politique de développement dans les années 2009-2011, qui s'est traduit par une baisse des capex de développement dans les années 2012-2014. Mmh. Donc, on avait constitué des réserves de trésorerie et d'autre part, nous avions procédé à la cession de nos activités éoliennes en 2013, début 2013. Et donc, cet ensemble-là correspond à un effet rattrapage, mais effectivement, nous sommes sur un rythme moyen de 100 millions par an.
D'accord.
Autofinancé. Deuxième question, pour ce qui concerne les pays futurs après le Brésil, deux, trois commentaires. Le premier, c'est que le Brésil va nous occuper longtemps. Le Brésil est un marché pour nous absolument considérable et donc je ne veux pas du tout vous donner le sentiment que nous passons déjà à un autre marché. Nous sommes très bien au Brésil, nous arrivons au bon moment et nous sommes au travail et nous confirmons cette volonté d'investir 400 millions d'euros de CAPEX, donc pris à 100% au Brésil sur les 10 années, un projet tous les 12 à 18 mois, donc le Brésil nous occupe complètement. Cependant, compte tenu de notre spécificité, de nos avantages concurrentiels, on regarde les autres pays de canne à sucre. Les pays suivants en termes de production de sucre et de canne à sucre, c'est l'Inde, la Thaïlande, les Philippines, la Chine. Et donc, nous sommes en train de faire notre travail de préparation, de réflexion pour choisir un terrain de jeu qui pourrait être un terrain de jeu sur lequel on se déplacerait en complément du Brésil dans 3-4 ans, pas avant.
D'accord, je vous remercie beaucoup.
Une nouvelle fois, mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez appuyer sur la touche étoile suivie du chiffre 1. Merci. Une nouvelle fois, donc, appuyez sur étoile 1 pour poser votre question. Nous allons prendre une question de Xavier Caroen de Brian Garnier, c'est à vous.
Oui, bonjour messieurs. Quatre questions pour moi. La première, c'est sur la méthanisation. Donc effectivement, on a le sentiment que ça va un petit peu mieux qu'en début d'année. Donc on parle d'une contribution positive au chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Je voulais savoir si finalement on pouvait, donc au-delà de la rentabilité des projets, mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à un moment donné sur 2015, voire début 2016, à une contribution positive au niveau du bridge de l'EBITDA. Sur cette question de méthanisation, savoir également de combien d'augmentation tarifaire on devrait avoir pour finalement rendre rentable en termes de retour sur investissement ces projets. J'entends plutôt que on parle de 10 à 20% d'augmentation des tarifs venant de la part donc de Madame Royal. Donc, est-ce que c'est suffisant? Donc la deuxième question, c'est sur les surcoûts donc liés. Donc finalement, la réglementation sur les sous-produits. Est-ce que donc sur la négociation, on parle bien d'un rattrapage plus donc d'un remboursement en totalité ou partiel donc des 4 à 5 millions d'euros sur votre base de coûts. Donc est-ce que ça impliquerait finalement un impact de 12 à 15 millions d'euros sur le rattrapage et ensuite un impact donc flat sur le bridge de l'EBITDA suite donc à cette renégociation. Et enfin, les deux dernières questions. Un, c'est sur le taux d'impôt qui augmente fortement entre H1 2014 et H1 2015, malgré finalement donc une performance qui donc reste plutôt mauvaise. Et dernière question, c'est sur la motivation des employés donc en interne dans les DOM-TOM, savoir si vous avez en tête de remettre un plan finalement pour motiver les troupes avec donc des actions gratuites comme effectuées dans les années passées. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Carouin. Beaucoup de questions. Donc la première, je crois que c'est trop tôt pour parler de contribution positive de la méthanisation. On va attendre de voir comment se concrétisent les mesures préannoncées par Madame Royal. On est serein dans la mesure où nos outils industriels sont maîtrisés, mais on ne crie vraiment pas victoire et on attend. C'est vrai que l'ordre de grandeur de 20% d'augmentation des tarifs est quelque chose qui serait probablement nécessaire, mais peut-être même pas encore complètement suffisant. Il y a des négociations en cours avec les partenaires publics. Vous comprenez que dans le même temps, il y a une crise grave du monde agricole et du monde de l'élevage. Donc tout ça est sur la table actuellement des ministres concernés. Donc c'est du travail en cours. Dès qu'on a des éléments concrets et précis, on revient vers vous. Mais je dirais qu'on a fait notre boulot au sens où la maîtrise industrielle de l'outil est assurée. Maintenant, il faut qu'il y ait effectivement une révision significative du cadre tarifaire et on n'y voit pas encore assez clair pour être précis là-dessus. Pour ce qui concerne les surcoûts des sous-produits de combustion, vous comprenez que c'est une négociation qui est en cours. Elle n'est pas publique. Elle ne sera achevée que quand la commission de régulation de l'énergie aura statué sur les demandes que nous avons soumises à EDF et qui sont maintenant sur le bureau de la CRE. Donc là aussi, je ne vais pas vous dévoiler tout le sens de la négociation. Je n'ai aucune idée de ce qui sera accepté ou pas. Mais c'est vrai que dans le passé, nous avons réussi à obtenir de la compensation des charges futures et de la rétroactivité. Ça ne veut absolument pas dire que ce sera accepté ce coup-ci, mais c'est pas impossible. Pour ce qui concerne, et je passerai ensuite la parole à Julien pour le taux d'imposition, la motivation de l'ensemble de nos équipes, on réfléchit à un éventuel plan d'attribution gratuite d'actions en 2016. Vous vous rappelez qu'il y en avait eu un en 2012, un en 2014, un éventuel en 2016. Il se trouve que ce qu'on appelle la loi Macron, qui vient d'être votée, rend plus efficace ces plans d'AGA en termes fiscaux pour l'entreprise et en termes de charges pour l'entreprise et pour les salariés. Et donc, c'est ce sur quoi on travaille pour mai 2016. C'est du travail, là aussi, qui va dépendre de toute la précision qu'on pourra avoir sur la loi Macron et son application à ces actions gratuites. Taux d'imposition, Julien.
Oui, pour ce qui concerne le taux d'imposition, effectivement, qui est à 43,2%, il est impacté sur le semestre par la fiscalité des entités brésiliennes. Le taux d'imposition, je le rappelle, sur les entités brésiliennes est calculé non pas sur la base du résultat avant impôt, mais sur la base du chiffre d'affaires. Mmh. Et donc, comme on a un résultat avant impôt sur le semestre sur ces entités brésiliennes très faible, ça grossit le taux d'imposition effectif sur le semestre. Si on enlève le Brésil, le taux effectif du groupe est à 36,2 à comparer à 33,8 l'année dernière, à la même époque. Et la légère augmentation est liée à un effet d'impôt, de non-reconnaissance, d'impôt différé réactif sur l'activité méthanisation. Donc sur l'activité principale biomasse thermique outre-mer, il n'y a aucune évolution à noter. Et cet agrégat sera plus pertinent en fin d'année, voilà, on va le dire comme ça.
Il va falloir qu'on s'habitue ensemble au fait que au Brésil, le premier trimestre est un trimestre un peu creux, et donc il faut juger l'activité de nos exploitations au Brésil sur l'année plutôt que sur le premier semestre.
Ok, très bien. Merci
beaucoup.
Merci,
Monsieur Garouin.
Une nouvelle fois, mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur la touche étoile suivie du chiffre 1. Nous allons maintenant prendre une question de Philippe Patient de Natixis. C'est à vous.
Oui, bonjour messieurs. J'avais une petite question. Compte tenu, je dirais, des caractères opérationnels, des petits problèmes que vous avez subis cette année en termes de production d'électricité, je voulais avoir une idée si vous envisagiez éventuellement de remanier de façon, je dirais, un peu exceptionnelle le calcul de votre dividende sur 2015, puisqu'on voit bien que ces effets sont, un, non récurrents, deux, avec des mesures de correction à la clé, avec l'espoir que l'on ne va pas forcément retrouver ces mêmes problèmes dans le futur. Donc, est-ce qu'une stabilisation du dividende au niveau 2014 est envisagée cette année ?
Je pense que c'est très tôt pour évoquer ce sujet, mais si nous pouvons lisser les effets de DACU que vous évoquez, nous le ferons, et je ne doute pas que le Conseil d'administration et l'Assemblée générale nous suivent sur ce thème. C'est un des sujets que l'on peut envisager effectivement avec plutôt volontarisme et optimisme.
Merci beaucoup.
Encore une fois, mesdames et messieurs, appuyez sur étoile 1 pour poser votre question. Nous n'avons plus de questions pour le moment, donc je vous redonne la parole.
Bien, merci à vous tous, et Julien Gauthier et moi-même sommes à votre disposition dans les heures prochaines si vous avez des questions complémentaires à nous poser, et je vous souhaite à tous un très bon été. À bientôt.
Mesdames et messieurs, ceci conclut donc la conférence d'aujourd'hui. Merci de votre participation. Vous pouvez maintenant vous déconnecter.